nous chantons et crions la victoire.
Chante, alléluia, au Seigneur. Chante. Gloire au Seigneur. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes comblés, n'est-ce pas? Nous sommes comblés. Contempler le Seigneur, aimer le Seigneur, adorer le Seigneur, quel privilège. Nous qui autrefois étions des ennemis de Dieu, il a fait de nous maintenant des amis, des frères, des sœurs. Quel privilège! Nous ne réalisons jamais assez cela. Nous qui n'aurions pas pu lever le regard vers lui parce que nous étions pécheurs, maintenant à cause de son sacrifice, nous pouvons vraiment le contempler, le bénir et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Lui qui a tant fait pour nous, nous devons en retour nous donner aussi entièrement pour lui. Et quand le Seigneur Jésus a donné le commandement à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle, voici ce qu'il a dit dans Matthieu 28 et au verset 16. Avant de monter au ciel, Jésus a donné des ordres bien précis à ses disciples. Il leur a dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je reprends ce verset ici. Jésus a dit au verset 19, nous allons nous arrêter sur un mot très important dans les Écritures. Allez, faites de toutes les nations des... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Des convertis, des croyants, des sympathisants, des religieux. Ah, moi je suis croyant, moi je suis religieux, voilà. Des quoi? Des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, pas seulement des convertis, pas seulement des croyants, où tout est finalement superficiel, mais des disciples. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but du Seigneur, c'est de faire de nous des disciples. Vous savez, dans Actes 11, 26, il est dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien, mais tous ces chrétiens-là ne sont pas des disciples. Si vous posez la question à certaines personnes, vous dites « Qu'est-ce que es-tu ? Mais je suis chrétien. » Mais si vous grattez un petit peu, « Es-tu un disciple de Jésus ?» Ça, c'est autre chose. Il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des disciples. Alors que dans la parole de Dieu, c'était l'inverse. C'était aux disciples qu'on avait donné le nom de chrétien. C'était comme une récompense, j'allais dire, comme une approbation de ce qu'ils vivaient tellement pour le Seigneur. Ils ressemblaient tellement au Seigneur. Ils suivaient tellement la parole du Seigneur. Ils faisaient tout pour plaire au Seigneur. On les appela, on ne sait même pas si ce n'est pas les païens qui les ont appelés. Ce ne sont même pas les chrétiens qui se sont appelés eux-mêmes chrétiens. Mais ce sont les inconvertis à Antioche. On les appela des chrétiens parce que Christ était tout pour eux. Ils étaient vraiment des disciples. Des disciples. Et vous savez, c'est lorsqu'on est vraiment disciple du Seigneur qu'on glorifie vraiment le Seigneur. À moins de cela, nous ne le glorifions pas. Jean chapitre 15, une autre référence encore. Jean chapitre 15, voici ce que Jésus a dit. « Si vous portez beaucoup de fruits, C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est lorsqu'on est vraiment disciple du Seigneur qu'on le glorifie vraiment et qu'on porte du fruit. Donc, il nous faut réaliser ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Être tout simplement un converti n'est pas suffisant. Aller tout simplement à l'église n'est pas suffisant. Car bien souvent, ces personnes-là ne vont pas très loin dans leur vie spirituelle. Parce que le don n'est pas total de soi-même. Mais Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot chrétien paraît seulement 3 fois. Et savez-vous combien de fois paraît le mot disciple dans le Nouveau Testament ? 269 fois. Alors ceci veut dire que si nous voulons être de véritables chrétiens, nous devons d'abord être de véritables disciples du Seigneur. Car si nous portons le titre de chrétien sans être un disciple du Seigneur, nous portons ce nom à tort. Nous usurpons ce titre. Nous avons un titre, nous portons un titre que nous n'avons pas le droit de porter. Tu dis que tu es chrétien ? Ah bon ? Je veux bien le croire. Mais tu es un disciple du Seigneur d'abord. Si tu n'es pas un disciple du Seigneur, tu ne peux pas porter le titre de chrétien. 269 fois. Et je crois que l'Église, d'une manière générale, n'a pas encore saisi le véritable sens du disciple. Nous avons beaucoup de convertis, mais très peu de disciples. Très peu de disciples dans les églises. Qui portent vraiment du fruit et qui glorifient vraiment Dieu. Qu'est-ce qu'un disciple ? On pourrait dire beaucoup de choses, mais je vais vous donner quelques pensées importantes. Un vrai disciple, premièrement, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus par-dessus tout. Jésus est tout pour le disciple. Il l'aime par-dessus tout. Il n'y a pas de demi-mesure dans son cœur concernant le Seigneur. Il y a plusieurs références à cela. Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu 10, 37. Il y a des paroles un peu surprenantes du Seigneur. Et je crois qu'il en est bien, il est bien qu'il en soit ainsi, parce que le Seigneur, quand il parle, il est toujours là pour secouer les gens. Vous êtes d'accord avec moi ? Toujours, il était là pour réveiller, pour montrer exactement dans quelle situation les gens se trouvent. Matthieu 10, 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie et la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Luc 14, 26 encore. C'est un peu le même passage. Luc 14, 26. Il est bon de lire et de nous imprégner des exigences du Seigneur. Luc 14, 26, et réaliser un peu ce qu'est un véritable disciple. Trop souvent, nous nous donnons des titres que nous n'avons pas le droit de porter. Et c'est pourquoi, bien souvent, Jésus a dit un jour, il y en a beaucoup qui font des miracles en mon nom, mais je leur dirai un jour, ah, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ils portaient un nom, ils portaient des titres qu'ils n'avaient pas le droit de porter. C'est pourquoi il est très important de voir ce que le Seigneur veut nous dire. Matthieu, donc Luc 14, versets 25 et 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous vous rendez compte? Bien sûr, cette parole demande une explication, mais elle est très importante. Si quelqu'un ne hait son père, sa mère, et même sa femme et tout cela, il ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus a vraiment voulu dire qu'il faut haïr son père, sa mère, sa femme ou son mari? Certainement pas, puisque lui-même a dit que nous devons aimer nos ennemis. Alors, il ne peut pas d'un côté dire « tu dois aimer tes ennemis » et puis d'un autre côté « haïr ton père et ta mère ». Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, dans Matthieu, il nous donne un peu l'explication. Matthieu, donc, 10, 37, il dit « celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Autrement dit, nous devons aimer le Seigneur à un tel point que, comparativement, notre amour pour notre mari, pour notre femme ou nos enfants, paraît comme de la haine. Parce que nous aimons tellement le Seigneur. Mais écoutez-moi bien maintenant. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous aimerons notre mari et notre femme et nos enfants. N'est-ce pas vrai? Mais nous ne devons pas les mettre en premier. Si nous mettons le mari, la femme, le père, la mère, le frère, la sœur en premier, alors nous ne sommes pas ses disciples. Car finalement, lorsque Jésus n'est pas le premier, totalement le premier, si notre amour pour lui n'est pas entier, complet, alors nous ne pourrons pas véritablement aimer notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, nos parents, nos frères et sœurs, nous ne pourrons pas vraiment les aimer. Autrement dit, quand Jésus dit que nous devons l'aimer par-dessus tout, c'est pour que nous puissions ensuite aimer ceux qui nous entourent et nos bien-aimés et les aider vraiment. Mais là, il y a un point important. L'amour à l'égard du Seigneur et l'amour comparé à ceux des membres de notre famille est incomparable. Il doit avoir la première place. Il doit avoir toute la place. C'est pourquoi, là, quand les gens entendaient parler de Jésus comme cela, beaucoup s'en allaient. Beaucoup s'en allaient. Ils n'étaient pas prêts à accepter que Jésus ait toute la première place. Eux, ils pensaient que si Jésus avait toute la première place, ils seraient malheureux et qu'ils ne pourraient plus aimer les autres, les membres de la famille. Pas du tout. Pas du tout. Bien souvent, nous n'arrivons pas à aimer notre femme, notre mari, notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, parce que nous n'aimons pas assez le Seigneur, parce qu'il ne prend pas toute la place en nous. Lorsque nous l'avons couronné comme le Seigneur de notre vie, alors je vous assure, à ce moment-là, nous goûtons son amour, et son amour ensuite traverse nos cœurs et peut ainsi bénir les autres. Mais, écoutez-moi bien, son amour ne peut être partagé avec autre chose dans nos vies. Jésus lui-même a dit, c'est l'apôtre Jacques qui a dit, celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et le monde en même temps. Ces deux amours ne peuvent cohabiter ensemble. Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez aimer, servir deux maîtres à la fois, c'est impossible. Jacques chapitre 4, verset 4. Notons cette référence. Jacques 4, 4. C'est facile à retenir. Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu et ami du monde en même temps. C'est impossible. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que cela est possible. Mais cela est impossible. Un vrai disciple ne peut aimer le monde et en même temps le Seigneur. C'est pourquoi là, il y a là un point important. Un jour, je lisais l'histoire d'un jeune homme qui fréquentait. Alors, il fréquentait deux filles en même temps. Et il n'osait pas le dire, bien sûr. Et il est là, il fait fréquenter ses deux filles, et il pensait que ça pouvait durer longtemps comme cela. Et il s'est dit, bon, ben, pendant que j'ai l'occasion, profitons-en. Et un jour, il écrit deux lettres. Mais malheureusement, la catastrophe est arrivée. Dans une des lettres, il écrit « chérie », bon voilà, hein, voilà. Et puis l'autre « chérie un tel chéri, »,« chérie A »,« chérie B ». Mais sur l'enveloppe, il s'est trompé. La lettre qui devait aller à A est allée à B. Et la lettre qui devait aller à B est allée à A. Alors imaginez-vous les filles quand elles ont reçu cette lettre. Chérie, mais ce n'était plus à son nom. Ah, c'est que l'autre a... Il a donc quelqu'un d'autre. Et ça s'est fait la même chose avec l'autre jeune fille qui a reçu une lettre qui était adressée à l'autre. Quand les deux filles ont reçu ces lettres, retour à l'expéditeur. Ah bon, c'est comme ça que ça marche. Allez, terminé. Toutes les deux ont envoyé les lettres à ce jeune homme, et toutes les deux ont coupé. Lui qui voulait aimer les deux, d'un seul coup, il a été séparé des deux. Il en est de même un peu avec le chrétien. Si nous voulons aimer les deux choses, nous ne pouvons pas être aimés du Seigneur. Ce sera la coupure. Le cœur ne doit pas être partagé. Le cœur doit être entier au Seigneur. Et ça, nous le savons, mes amis, n'est-ce pas ? Nous le savons quand notre cœur est entier. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ne l'oubliez pas. Je lisais aussi une autre fois l'histoire d'un jeune homme, d'un gamin. On lui disait, je crois que c'était à l'école du dimanche, la monitrice de l'école du dimanche lui disait, enfin il disait un peu à tous les gamins qui étaient là, « Comment voulez-vous vivre en prenant l'exemple de Lazare et du mauvais riche ?» Vous vous rappelez l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Alors la monitrice disait, « Comment voulez-vous vivre à qui voulez-vous ressembler dans cette histoire-là » Alors tout à coup, il y a un gamin qui lève la main qui dit, « Mademoiselle, je sais, je vais vous dire. Moi, je voudrais ressembler aux riches sur la terre et à Lazare dans le ciel. » Il voulait avoir la belle vie sur cette terre, comme le riche, et avoir la récompense du ciel, comme Lazare quand il irait là-haut. Mais ça ne marche pas. Un disciple doit aimer le Seigneur de tout son cœur et il ne doit pas y avoir d'amour autre que l'amour pour le Seigneur dans notre cœur. Amen. Et en cela, vous le savez vous-même, c'est des tests, il est bon de passer des tests dans notre cœur et de veiller absolument à ce que tout notre cœur soit entièrement pour lui. Alléluia. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu domines toutes mes pensées, mes paroles, mes actions. Tu es tout pour moi. Je ne veux absolument aucun autre amour dans mon cœur. C'est cela un disciple. Vous savez, dans un sens, quand vous avez quelqu'un comme ça, ce quelqu'un-là, on le prend pour un fanatique. Aux yeux du monde, il paraît pour un fanatique. Comment ? T'as que Jésus, toi ? T'as que Jésus ? Tu parles toujours que de Jésus, Jésus, Jésus. T'as que Jésus ? Oui. J'ai que lui, mais en lui j'ai tout reçu. En lui j'ai tout trouvé. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et bien souvent, lorsque nous cherchons ailleurs une compensation, c'est que Jésus n'est pas tout pour nous. Rappelez-vous bien de cela. Si vous cherchez ailleurs qu'en Jésus la consolation, la paix, la distraction, alors, c'est que Jésus n'est pas tout. Jésus doit être tout pour nous. Amen. Ne l'oubliez pas, Jésus est un roi. Et quand il vient, il exige les droits d'un roi. S'il est roi, on doit tout lui donner. Pas seulement quelques petites parties de notre vie, il a droit à tout. Il doit pouvoir entrer dans toutes les chambres de notre maison. Est-ce qu'il peut entrer dans toutes les chambres de votre maison ? Pour certains chrétiens, il peut rentrer seulement dans le salon, et encore, dans le salon, pas toujours. temps en temps, voilà, quand tout est bien rangé. Mais à certains moments donnés, on fait certaines choses, on entend certaines choses où Jésus est obligé de partir. Ou alors on le met à la cuisine. Voilà, tu restes là à la cuisine, tu vois. Tout le reste, c'est un peu... Voilà. Jésus, on dit qu'il est le roi, notre roi, on dit qu'il est notre Seigneur, mais finalement, il n'est pas tout pour nous. Il n'est pas tout. Et c'est cela un disciple. En somme, c'est un fanatique du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce sont ces fanatiques-là qui sont équilibrés. Ce sont ceux-là qui ont vraiment les pieds sur la terre et qui sont les véritables témoins du Seigneur. Amen. Le monde attend de voir des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Amen. Qui l'aiment de tout leur cœur, pas seulement à l'église. Mais en dehors, à la maison, partout, 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 Jésus doit être le premier dans notre vie. Amen. Une deuxième qualité, si vous voulez, d'un disciple. Premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur par-dessus tout. Alléluia. Deuxièmement, un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à plaire à son maître avant tout. Qui cherche à plaire à son maître. Matthieu 10, 24-25. C'est cela un disciple. Matthieu 10, 24-25. Il est dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Voyez-vous ? Le disciple n'a qu'un désir, c'est d'être approuvé par son maître. Il ne cherche que cela. L'approbation des hommes est pour lui quelque chose qu'il met de côté. Mais l'approbation de Dieu, c'est ce qui compte. Un disciple, c'est cela. Il ne cherche plus à plaire aux hommes, mais il cherche à plaire à son Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu cherches vraiment à plaire au Seigneur avant tout, que de gens sont esclaves du qu'en dira-t-on ? Le qu'en dira-t-on ? Esclaves. On n'ose pas dire ceci, on n'ose pas faire cela, parce qu'on sait que telle personne pense ceci, pense cela, et alors on craint les réactions. On sait que c'est que cette personne croit est en contradiction avec ce que la Bible dit, avec ce que Jésus dit. Et on n'ose pas affronter cette confrontation. On n'ose pas, on en a peur. On a peur des réactions de l'un et de l'autre. On cherche l'approbation des uns et des autres. Un vrai disciple. Il suffit au disciple d'être traité comme son Seigneur, comme son maître. On a rejeté le maître, on vous rejettera aussi. On a appelé le maître Belzébul. On vous appellera aussi Belzébul, autrement dit. On vous calomniera. On dira toutes sortes de choses vous concernant. Ne vous étonnez pas. Ne vous préoccupez pas, vous pas de ces choses. C'est cela un vrai disciple. Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout, même s'il fallait calomnier, rejeter. Rechercher l'approbation du maître, c'est un langage inconnu. On est là, esclaves. Du qu'en dira-t-on et des réactions des uns et des autres. Un jour, un jeune homme, c'était un musicien, il s'était préparé pendant des mois et des mois à donner un concert. Le jour est arrivé où il a donné son concert, il y avait foule, la foule était là. Lorsqu'il a terminé son concert, toute la foule s'est levée pour l'applaudir. C'était magnifique, c'était un succès, c'était extraordinaire. Mais ce jeune musicien n'a pas bougé. Parce qu'il savait que dans un coin de l'auditoire, tout au fond, il y avait son maître qui était là, qui avait écouté. Et tout le monde l'applaudissait. Mais son regard à lui n'était pas sur les gens, mais était sur son maître. Il observait son maître, qui ne bougeait pas. Et lui, tant que son maître ne bougeait pas, il n'acceptait rien du tout. Et à un moment donné, en observant son maître, le maître a fait ceci, a baissé la tête, en signe d'approbation. C'est bien, disciple, mon disciple, c'est bien. Au moment où il a reçu l'approbation de son maître, il a accepté l'approbation des autres, mais pas avant. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas les acclamations des hommes, mais l'approbation de son maître. Voilà un vrai disciple, mes amis. Et c'est là que le Seigneur nous attend les uns et les autres. Il y a tant de tentations dans ce monde. À qui cherches-tu à plaire? Il y en a qui sont complètement grisés par les applaudissements. Ils ne recherchent même que cela. Mais quant à plaire au maître, cela n'a pas d'importance ou beaucoup d'importance dans leur vie. Mais un vrai disciple, il n'a qu'un désir, plaire à son maître. Alléluia. Avoir l'approbation du maître. Et laissez-moi dire une chose. Si vous avez l'approbation du Seigneur, bien souvent, vous aurez la désapprobation des hommes. Ne l'oubliez jamais. Là encore, vous ne pouvez pas avoir l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes en même temps. Ça n'existe pas. Jésus a été rejeté. On l'a maltraité. On l'a dit qu'il était possédé même de démons. Alors qu'il était pur, saint. On l'a calomnié. On a dit tant de choses. Mais Jésus a dit, vous qui me suivez, si vous voulez être mes disciples, on vous traitera la même chose. Combien sont prêts à suivre ce traitement-là? Laissez-moi dire une chose, il y en a très peu. Des chrétiens alléluia, il y en a beaucoup. Je suis un chrétien alléluia. Il en faut des chrétiens alléluia. Louons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Mais il faut l'équilibre. Nous devons aussi être des chrétiens amen. Amen, Seigneur. Ta volonté soit faite. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur Jésus, je ne cherche pas l'approbation des hommes. Je ne cherche que ton approbation, comme Étienne lorsqu'il était persécuté. Il leva les yeux et vit le ciel ouvert. Le Fils de Dieu était là, debout, en train de recevoir son serviteur. Alors que les hommes, ses ennemis, étaient en train de persécuter, de le rejeter, Jésus s'est levé de son trône pour honorer son serviteur. Pour l'honorer. Alors que son serviteur était déshonoré ici-bas, Jésus, lui, se levait pour l'honorer et lui dire, c'est bien, mon serviteur. Tu rentreras maintenant dans la joie de ton maître. Il ne recherchait qu'une chose, l'approbation de Dieu. Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir ce cœur-là. Amen. Et de ne pas courir en vain, mais de chercher continuellement l'approbation de Dieu. J'ai noté ici, un jour on a demandé à George Muller, vous connaissez George Muller, cet homme de Dieu, cet Anglais, qui au siècle passé a fait un travail extraordinaire. Il a nourri des milliers d'orphelins par la foi. Un homme qui a fait un travail extraordinaire. On lui a demandé un jour quel était le secret de son ministère. Pourquoi il avait un tel secret? Quelle était la puissance de son ministère? Voici ce qu'il a dit. Quand on lui posa cette question, il était assis et il s'est baissé. Et comme pour se baisser bien bas. Et ensuite, en levant la tête, il a dit, il y eut un jour où George Muller mourut. Je mourus à George Muller lui-même, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Je mourus au monde et à son approbation et à ses reproches. Je mourus aussi à ce que mes amis pouvaient dire, mes frères pouvaient dire, Je n'ai recherché ni leur approbation. Je ne me suis arrêté ni par leurs reproches. Laissez arrêter. Je n'ai recherché qu'une chose, disait-il, qu'une seule chose. J'ai cherché l'approbation de Dieu et de Dieu seul dans ma vie. De telles décisions, ce sont des décisions qui bouleversent et transforment complètement une vie. Vous savez, quand on est prêt à chercher à plaire au Seigneur seulement, c'est tout un combat, laissez-moi vous dire une chose, c'est tout un combat. Car il y a nos sentiments qui jouent. On voudrait faire plaisir à l'un ou à l'autre. On ne voudrait pas chiffonner l'un, on ne voudrait pas chiffonner l'autre. Nos sentiments sont là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Bien souvent, quand on veut plaire à quelqu'un, soi-disant pour l'aider, vous n'aidez jamais quelqu'un. Quand vous voulez faire plaisir à cette personne, vous ne l'aidez jamais. Vous l'aidez seulement lorsque vous obéissez au Seigneur et que le Seigneur est le premier par-dessus tout. Alors vous pouvez l'aider. Vous êtes libre de cette personne et vous pouvez ensuite lui donner la parole de Dieu. Vous pouvez lui communiquer les sentiments de Dieu parce que vous êtes libéré de toute pensée sentimentale ou de toute relation sentimentale. Il faut en être totalement libéré. Et c'est alors que Dieu nous envoie. Parce qu'on craint Dieu premièrement. Celui qui craint Dieu ne craindra plus aucun homme. Laissez-moi dire une chose. Celui qui craint Dieu ne craint plus personne. Ne craint ni le diable, ni les hommes. Que 100 000 hommes se dressent contre un homme qui craint Dieu, il sera dans la paix. Mais que la crainte de l'homme soit dans le cœur, c'est fini. La parole de Dieu dit, la crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte de l'homme tend un piège. Mais c'est celui qui se confie en l'Éternel qui est protégé. Qui a pu mettre la main sur le Seigneur? Personne. Personne. Avant l'heure de Dieu, personne. Personne. Ils auraient bien voulu le tuer tout de suite. Les pharisiens étaient là. À combien de reprises ils ont voulu mettre la main sur lui? Et les Romains aussi. Ils auraient bien voulu faire quelque chose, mais personne. Ils craignaient Dieu. Ils recherchaient l'approbation de son Père. Et personne ne pouvait mettre la main sur lui. Gloire au Seigneur. Il était protégé. Tu seras protégé si tu recherches l'approbation de Dieu. Mais si tu crains plus les hommes, la protection est enlevée. Et c'est ce que tu crains qui arrivera justement. Un disciple, c'est quelqu'un qui recherche l'approbation de son maître. L'apôtre Paul disait, « Je ne serai pas encore un serviteur de Dieu si je cherchais à plaire aux hommes, n'est-ce pas vrai? Et je ne serai pas un serviteur de Dieu. » Un vrai disciple se demande toujours, « Seigneur, est-ce que cela te plaît ?» Est-ce que cela te plaît? Est-ce que Jésus peut regarder avec vous ce que vous regardez? Est-ce que Jésus peut écouter avec vous ce que vous écoutez? Est-ce que Jésus peut aller avec vous là où vous allez? Est-ce que Jésus peut faire avec vous ce que vous faites? Est-ce que Jésus peut aller dans tes lieux avec vous? Est-ce que vous pouvez vraiment demander la bénédiction du Seigneur sur tout ce que vous voyez et entendez? Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à plaire au Seigneur en toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Un disciple, une troisième pensée. Un disciple n'est pas choisi sur la base de ses capacités, mais de sa disponibilité. Luc 14, 27, 26 et 27. Là, voilà encore un point très important. Luc 14, 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Regardez au verset 26 au début. Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Jésus ne fait aucune distinction à l'égard de ceux qui veulent venir. Il ne dit pas seulement ceux qui sont intelligents, seulement ceux qui ont de l'argent, Seulement ceux qui ont des talents. Vous pouvez venir, les autres, vous restez à votre place. Retournez à la maison, je ne pourrai rien faire de vous. Ça, c'est ce que les hommes font. Ils choisissent ceux qui sont les plus intelligents, les plus sages, les plus beaux. Et les autres, dans ce monde, c'est ainsi. Il n'y a que les plus riches, les plus beaux, les plus forts qui percent, qui font quelque chose. Les autres sont ignorés, sont méprisés. Le monde juge sur la base des capacités de quelqu'un. Tandis que Jésus, lui, juge sur la base de la disponibilité. C'est pourquoi chacun d'entre nous ici peut devenir un disciple. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, n'importe qui ici, peut être le disciple du Seigneur, n'importe qui, si quelqu'un vient après moi, Dieu, le Seigneur donne une chance à chacun d'entre nous. Et si nous le suivons, il nous dira comme il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Celui qui suit le maître sera transformé par le maître, ressemblera au maître et verra sa vie transformée en suivant le maître. De grandes choses peuvent se passer dans ta vie. Mais si tu es ton propre maître, absolument rien ne changera. Tu seras de plus en plus esclave de toi-même et des autres. Mais si tu suis le Seigneur, tu seras de plus en plus libre. Libéré de l'esclavage des hommes et de toi-même pour suivre le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur et qui est accepté par le Seigneur sur la base de sa disponibilité. Êtes-vous disponible ? Voulez-vous être disponible ? Ne dites pas, vous savez, les raisons du Seigneur. Bien souvent, nous donnons beaucoup de raisons. Seigneur, moi, je n'ai pas de talent, je n'ai pas fait beaucoup d'études, je ne parle pas bien, je ne sais pas faire grand-chose, je ne suis pas beau, je suis petit, je suis gros, je suis maigre, j'ai plus de cheveux sur la tête. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi ? Je ne parle pas très bien, je bégaye. On me rejette, personne ne peut rien faire avec moi. Jésus ne pose jamais de telles conditions. Jamais. Si quelqu'un veut venir après moi, quelle libération. Oh, gloire à Dieu. Rejeté par les hommes, incompris peut-être par les hommes, mais jamais du Seigneur. Je suis heureux que le Seigneur m'ait accepté. Moi, jeune homme timide que j'étais, timide, ignorant de tant de choses, esclave de tant de passions, j'ai entendu un jour l'appel du Maître. Sam, si tu veux me suivre, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et j'ai dit, Seigneur, je te suivrai. Je n'ai rien du tout. Je n'ai aucune capacité humaine, mais je veux te suivre. Je veux être disponible. Je veux que tu fasses dans ma vie ce que tu as décidé de faire. Je lisais l'histoire d'un violoniste. Une annonce avait été mise dans les journaux. Un grand violoniste va donner un concert extraordinaire. Avec un violon de 50 000 francs. Tout le monde a été surpris. Un grand violoniste avec un violon de 50 000 francs, mais ça doit être extraordinaire. Tout le monde a couru, a rempli l'auditorium. On allait voir jouer un violoniste avec un violon de 50 000 francs. Un Stradivarius, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être. Voilà. Alors il arrive, tout le monde était là, et il commence à jouer. Tout le monde est vraiment touché, extraordinaire. Il n'arrive même pas à terminer que tout le monde applaudit, se lève, s'assied, se lève, c'est formidable. À la fin du concert, il prend son violon, il le met par terre, il le casse complètement. Tout le monde... consterné, pas possible! Un violon de 50 000 francs, c'est pas croyable! Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Nos applaudissements t'ont tout fait tourner la tête ou quoi? Le violoniste s'approche du micro et leur dit, mes amis, je voulais vous apprendre une leçon ce soir. Le violon que je viens de casser, il coûtait seulement 100 francs. C'était un violon à 100 francs. À 100 francs. Alors après, il a dit, maintenant je vais vous montrer comment on joue aussi avec un violon de 50 000 francs. Il a joué avec un violon, le violon de 50 000 francs, il en avait un Stradivarius. Mais il n'y avait pratiquement aucune différence. Il n'y a que les connaisseurs qui vraiment voyaient une petite différence. La leçon est quoi ? Quelle est la leçon ? Le point important n'est pas le violon, mais le violoniste. La leçon est celle-ci. Les hommes mettent l'accent sur le violon, mais Dieu met l'accent sur le violoniste. Es-tu un violon à 100 francs ? Peu importe. Le violoniste, c'est un violoniste sans prix. Hors prix ! Qui vaut des milliards ? Es-tu un violon de 20 francs, 50 francs ou 100 francs ? Cela n'a pas d'importance. Livre-toi entre les mains du divin violoniste, de l'artiste divin, du divin professeur, du maître parfait et absolu, et de rien du tout. Il faudra quelque chose de grand. C'est ce que le violoniste voulait leur montrer. En disant, voilà, il n'y a pas tellement une grande différence. La différence est dans le violoniste et non pas dans le violon. Un disciple, c'est cela. Et quand on réalise cela, le disciple ne se glorifie pas lui-même, n'est-ce pas ? Il donne toute la gloire à Dieu. Amen. Il donne toute la gloire à Dieu. Il sait qu'avec un violon de 100 francs, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Et s'il se passe quelque chose, s'il se fait quelque chose de beau dans notre vie, c'est toujours à cause du divin violoniste. Et un vrai disciple qui réalise cela donnera toujours la gloire à Dieu. Toujours, toujours. Un vrai disciple ne prend jamais la gloire qui revient à Dieu. Comme bien souvent je le dis, il vaut mieux toucher un fil de 10 000 volts que de toucher à la gloire de Dieu. Ça vous fera moins mal. Pourtant, 10 000 volts, vous savez ce qu'il vous reste ? Il ne reste plus grand-chose. Mais ça vous fera moins mal de toucher un fil de 10 000 volts que de toucher à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Car Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Et un disciple, même quand Dieu l'utilise, doit savoir donner toute la gloire à Dieu. Il doit pouvoir dire, c'est avec un violon de 100 francs que j'ai fait mon travail. Je ne suis rien du tout. Je porte ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que toute la gloire soit attribuée à Dieu et, à nous, et non à nous-mêmes. Voulez-vous que Dieu vous utilise ? Voulez-vous que Dieu nous utilise ? Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent la gloire à Dieu. Mais malheureusement, bien souvent, quand quelques-uns sont utilisés par Dieu, ils ont tourné la tête complètement, c'est fini. Ils se vantent de leur violon au lieu de se vanter du violoniste. Ils se vantent de leurs expériences, ils se vantent de leur église, ils se vantent de tant de choses. Alors qu'il n'y en a qu'un. Un seul qui est digne d'être loué et vanté. C'est le divin violoniste, le divin maître, Jésus de Nazareth. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, toi livré entre ses mains, il peut faire de toi quelque chose. Tu ne dois pas douter de cela. Tu ne dois pas douter. C'est un artiste, c'est un prof. Il saura sortir quelque chose de ta vie. Ta vie est-elle discordante ? Ta vie est-elle un chaos ? Remets ta vie entre les mains du divin artiste. Il en sortira une musique mélodieuse. Il saura toucher les cordes sensibles de ton cœur et de ta vie. Se manifestera une mélodie d'amour pour le Seigneur, un chant de louange qui glorifiera son nom et qui sera agréable à tous ceux qui vous entendront. Ils entendront l'évangile. Ils entendront le message de la réconciliation comme une musique à leurs oreilles. Le cœur sera touché et beaucoup se convertiront. Amen. Un disciple, ne l'oubliez pas, n'est pas choisi sur la base de ses capacités, mais de sa disponibilité. Êtes-vous disponible ? Dieu peut vous utiliser. Êtes-vous disponible ? Il y en a trop qui regardent à leur capacité. Ah, moi, je ne suis pas capable, donc Dieu ne peut rien faire. C'est un mensonge. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses insensées mais qu'on méprise, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Un disciple, et je termine par cette quatrième pensée, un disciple, un esprit de sacrifice. Luc 14, 33. Il est dit ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et ailleurs, il est dit aussi, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Autrement dit, il y a là un esprit de sacrifice. Un vrai disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. Vous savez, on peut renoncer à beaucoup de biens, beaucoup de choses sans renoncer à soi-même. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On peut renoncer à beaucoup de choses sans renoncer à soi-même. Ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Que nous soyons soumis au Seigneur, qu'il prenne lui la première place. Et que nous soyons prêts à faire des sacrifices, des choses qui nous coûtent. Pas seulement des choses qui ne nous coûtent rien. David disait, je n'offrirai point à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. Il n'y a que ce qui vous coûte qui aura de la valeur devant Dieu et devant les hommes. Rappelez-vous bien d'une chose. Une vie chrétienne qui ne vous coûte rien n'a pas de valeur aux yeux des autres. C'est pourquoi les autres ne veulent rien acheter, c'est trop gratuit. C'est trop bon marché. Ils ne veulent pas ce qu'on leur offre parce que ça n'a pas de valeur à nos yeux. Et parce que ça n'a pas une grande valeur, ça ne nous coûte rien. Alors les gens n'en veulent rien. Mais quand ce que nous disons nous coûte quelque chose, alors ça aura de la valeur aux yeux des autres. Amen. Très important. Je termine par cette petite histoire pour terminer maintenant. Je lisais une petite histoire un peu humoristique, amusante. C'était une poule et un petit cochon qui se promenaient. Et tout à coup, ils sont arrivés devant une église. Et il y avait le titre du sermon. Le titre du sermon, c'était, le pasteur devait prêcher là-dessus, « Comment pouvons-nous aider les pauvres ?» Alors, il y a eu une discussion entre la poule et le petit cochon. « Tiens, comment pouvons-nous aider les pauvres ?» Voilà ce que le pasteur va prêcher. « Comment pouvons-nous aider les pauvres ?» Alors, eux aussi, ils se sont sentis concernés. « Comment est-ce qu'on nous... Toi, poule, moi, petit cochon, comment est-ce qu'on peut aider les pauvres ?» Alors la poule a réfléchi un petit peu. Elle a réfléchi un petit peu, la poule, elle a dit, « Ah, j'ai une idée. On pourrait leur offrir, pour le petit déjeuner, par exemple, du jambon et des œufs. » Du jambon et des œufs. Tout à coup, le petit cochon réagit. Il dit, « Comment ? Ah ! Du jambon et des œufs. C'est toi qui vas donner l'offre. Ce que tu vas donner, c'est simplement, ce sera une collecte finalement. Ça correspondra à une collecte. Tandis que moi, le jambon, si je dois le donner, c'est le sacrifice complet de ma vie. Toi, c'est une collecte. Ça ne te coûtera pas grand-chose. Mais moi, ça va tout me coûter. Le jambon, c'est bien beau, tu veux offrir du jambon. Mais moi, il faut que je donne ma vie pour qu'on offre du jambon. » Il y a beaucoup de chrétiens qui offrent des petits œufs. Ça ne leur coûte pas grand-chose. Mais ce que Dieu demande, c'est notre vie. On peut donner beaucoup de choses, mais tant que notre vie n'est pas sur l'autel, mes amis, tout ce que nous offrons ne sert à rien du tout. Toutes nos œuvres, tout ce que nous pouvons dire ou faire n'est rien du tout. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est quand le cœur est livré, abandonné, prêt à servir le maître, à mourir pour le maître. Et à lui donner toute sa vie, sans condition. Alors qu'on devient le véritable disciple. C'est alors que nous porterons du fruit. Un vrai disciple portera du fruit. Dans un tel esprit, nous portons du fruit. Et notre Père sera glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Un vrai disciple porte du fruit. Vous ne pouvez pas ne pas porter du fruit. En ayant ces qualités-là, vous ne pouvez pas ne pas porter. Votre vie sera une bénédiction pour Dieu et une bénédiction pour ceux qui vous entourent, car un vrai disciple communique sa vie aux autres. Sa vie reparaît dans les autres. Il veut que sa vie se manifeste au travers des autres. Il ne vit plus pour lui-même. Il se donne aux autres, qui à leur tour se donnent aux autres. Et c'est ainsi de suite. Mais pour que la vie aille chez les autres, il faut mourir soi-même. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous porterez du fruit et Dieu vous honorera. Mais si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Que de chrétiens ne meurent seuls, rien du tout, seuls. Ils refusent de mourir, de se sacrifier. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Tant que tu vis que pour toi-même, tant qu'il n'y a pas cet élément de sacrifice dans ta vie, où tu dis, à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant qu'il n'y a pas ça, le grain de blé, il n'est pas tombé en terre, il ne veut pas mourir. Et s'il ne veut pas mourir, il restera seul. Mais si tu veux mourir, si tu es prêt à dire oui, Seigneur, à n'importe quelle condition, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Et c'est crié comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et l'apôtre Paul lui-même le disait, pour moi, peu importe ma vie, je sais que des persécutions m'arrivent, mais pourvu que j'accomplisse avec joie ma course sur cette terre. Il était prêt à vivre pour le Seigneur, comme il était prêt à mourir pour le Seigneur, et cela dans la joie. Un disciple, c'est cela. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, à renoncer à lui-même, et à être une bénédiction au Seigneur et à ceux qui l'entourent. Puisse le Seigneur exaucer notre prière et que nous devenions de vrais disciples du Seigneur. C'est ainsi que nous porterons beaucoup de fruits et que Dieu sera glorifié. Amen.